Bien-aimés, je vous invite à prendre maintenant dans la parole de Dieu l'épître aux Hébreux. Alors, je suis avec ceux qui pensent que c'est une épître de la main de l'apôtre Paul. Il y a quelques discussions sur le sujet. Peu importe l'auteur, nous savons que c'est la parole de Dieu. Et voilà, c'est ce qui nous réjouit. Nous lisons au premier chapitre les 6 premiers versets. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 6. Et oui, Seigneur, quand nous ouvrons ta parole, nous demandons que tu nous parles. Ton esprit l'a inspiré jadis aux auteurs, et aujourd'hui ton esprit nous parle. Et nous te demandons, quand nous écoutons, quand nous lisons, quand nous méditons, quand nous rentrons chez nous, que tu fécondes ta parole dans nos vies. Et qu'ainsi le nom de Jésus, ton nom Seigneur, soit élevé. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur, chapitre 1er, verset 1. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait le monde. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, et encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ?» Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent !» Et puis je vous invite à prendre le chapitre 12, où nous lisons juste les deux premiers versets, 12 à partir du premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre nous appelle ici à courir une longue course avec persévérance, avec nos yeux fixés sur Jésus. Et cette course n'est pas toujours facile. Il y a des lignes droites, mais il y a aussi des tournants, des obstacles, et le mot d'épreuve est employé. Courons avec persévérance l'épreuve. Et ce mot employé en grec est un mot qui est utilisé entre autres pour les courses des chars qui avaient lieu dans les cirques romains, ces chars tirés par les chevaux. C'est appelé des épreuves parce que souvent il y avait des accidents et les meneurs des chars qui tombaient par terre étaient souvent écrasés par les chars derrière qui suivaient. L'histoire nous apprend que souvent ces jeunes meneurs de chars étaient formés dès l'âge de 12 ans et que beaucoup mouraient vers 20 ans, 25 ans à cause de nombreux accidents. Donc ces courses étaient des épreuves et c'est ce mot qui est employé. Ce mot « épreuve » a donné dans notre langue française le mot « agonie ». Et quand on dit « agonie », à quoi vous pensez ?
Ah, c'est quelqu'un qui est vraiment souffrant. Quelqu'un qui est peut-être à l'article de la mort. Voilà, ça ne va pas bien. Cela implique la notion de souffrance. Et ainsi, l'apôtre, il nous dit, « Courons ! Ce qui est devant nous, cette course dans la vie, jusqu'au bout, malgré la souffrance, malgré les difficultés qui se trouvent devant nous, les yeux fixés sur Jésus. » Et c'est là notre thème. Regardons à Jésus, surtout dans les épreuves, et continuons toujours à progresser. Évidemment, bien-aimés, notre Seigneur est un Dieu qui nous bénit, qui nous aime, qui écoute nos prières, qui nous garde beaucoup de dangers, qui nous soutient, qui nous donne espérance. Il est notre soleil qui brille, même quand le soleil ici en Belgique reste pendant des semaines au-dessus des nuages. Quand beaucoup de gens marchent dans les ténèbres, son soleil brille dans nos cœurs. Oh, qu'il est bon pour nous. Il nous donne force, sagesse, la grâce de voir qu'il se sert de nous. Et quand quelqu'un se tourne vers Jésus par notre témoignage, c'est encore son œuvre qu'il accomplit en nous. Le Seigneur nous bénit et le peuple de Dieu peut dire « Amen ». Mais il y a aussi ce jour difficile, ces jours où vraiment rien ne va comme nous le souhaiterions. Ça vous arrive quelquefois ? Qu'il y a un jour où ce n'est pas une contrariété que vous rencontrez, mais où il y en a deux, trois, quatre à répétition et vous dites « Aïe, 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 quel jour aujourd'hui ?» Il y a de ces jours hein, où plusieurs difficultés nous tombent dessus presque en même temps. Des jours d'épreuve. Au niveau de notre santé, nous pouvons avoir des soucis. Un accident peut arriver à un chrétien aussi. Quelquefois, des jeunes qui ont une relation de fiançailles qui est rompue. Voilà, quelqu'un qui ne peut pas avancer dans la vie comme souhaité. Le pasteur qui prie avec foi qu'il y aura beaucoup de conversions et c'est pas tant qu'il aurait espéré. Nous sommes toujours appelés à persévérer. Quand on regarde dans cette épître, nous voyons que Paul, ou l'apôtre qui écrit, parle de chrétiens qui ont abandonné l'assemblée. Et ça, c'est décourageant pour les chrétiens qui restent. On voit ceux qui viennent et soudainement, ils ne viennent plus. Il parle de ceux qui sont nonchalants. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, ça veut dire que la foi n'est pas la priorité. C'est une activité parmi d'autres. Voilà, c'est pas la première place, c'est pas la dernière. Et on est un peu par-ci, par-là, mais pas de tout son cœur. Oh, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus a dit ? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Les nonchalants, ils aiment le Seigneur, oui, et puis il y a bien de choses qui prennent une première place ailleurs, avec toutes les conséquences. Et puis dans l'Église aussi, l'apôtre a constaté que certains font des compromis avec le péché. Ils ne donnent pas le détail en quoi, mais il y a des chrétiens qui sont bien présents et dans la vie de la semaine, eh bien, ils ne vivent pas comme le Seigneur l'attend d'eux. Et quand cela se sait, ça peut être un terrible sujet de découragement. Et puis, ils constatent aussi que certains sont tombés et ont vraiment renié la foi. Et là, il n'y a plus d'espoir. Quel sujet de tristesse. Et cela peut arriver à toute église. Et nous ayons, et le Seigneur nous dit, d'avoir nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur de notre foi, qui l'amène à sa perfection. Toujours regarder Jésus. C'était pas évident pour les gens de jadis, c'est pas toujours évident pour les chrétiens dans l'église, car même dans une église locale, il y a des sujets de découragement. Mais le soleil du Seigneur, il brille dans notre âme.
On sait que ces chrétiens, en plus, ont été persécutés. Ils ont mené des combats douloureux, fait face à des tribulations, exposé en spectacle. Donc c'était public, il y a eu une persécution publique. Certains ont été jetés en prison. Certains ont perdu tout leur bien à cause de leur amour pour Jésus-Christ. Pas toujours facile d'être chrétien, surtout dans des temps de persécution. Surtout quand tu es arrêté injustement ou arrêté à cause de ta foi en Jésus-Christ. Et on sait par porte ouverte aujourd'hui qu'aujourd'hui dans le monde, 380 millions de chrétiens sont persécutés. Ici déjà, l'apôtre s'adressait à quelle église? On ne le sait pas. Certains pensent qu'il s'agit de Rome, parce que là, il y a eu de grandes persécutions. Mais il y a d'autres possibilités. L'importance pour nous, c'est que nous ayons toujours les yeux fixés sur Jésus, quelles soient les circonstances par lesquelles nous passons, dans les bons jours comme dans le mauvais jour, dans l'adversité. Même quand nous perdons notre honneur, même quand nous avons des souffrances, même quand nous avons des sujets de peine, toujours regarder à Jésus qui nous a tant aimés, jusqu'à donner sa vie à la croix, par amour. C'est lui qui a tout accompli pour nous. Et là, si l'apôtre dit, voilà, courez cette course, eh bien c'est Paul qui avait déjà dit ça aussi en 1 Corinthiens 9. Alors dans le stade, l'athlète qui court cette course pour gagner le prix, c'est pas la première fois qu'il en parle. Et ici, il le dit, c'est, voilà, courons avec persévérance l'épreuve. Alors je m'imagine ce stade où il y a des milliers de supporters autour et qui regardent l'athlète. Et l'athlète, il voit qu'il y a deux, trois, plusieurs qui courent devant lui. Et il se dit, mais voilà, il y a d'autres qui vont gagner. Il dit, vas-y. Et il s'efforce. Et son cœur bat de plus en plus vite, il s'essouffle, il se rend compte que je n'arrive pas à rattraper celui qui est devant moi. Il se donne, il peut avoir des crampes, il peut tomber en chutant s'il ne fait pas attention. Bien-aimé, dans ce passage, la bonne nouvelle n'est pas de terminer premier, mais tout simplement d'atteindre la ligne d'arrivée. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous dans notre vie, c'est que nous soyons fidèles à Jésus, que nous gardions nos regards fixés sur Jésus jusqu'au bout de notre vie. Le but, ce n'est pas que nous soyons meilleurs chrétiens que celui qui est à ma gauche ou à ma droite, que telle ou telle autre personne. Nous regardons à Jésus. Et nous n'avons pas à nous comparer les uns devant les autres. Il y a toujours ceux qui sont meilleurs. Et quelquefois, mon frère, ma sœur, toi, tu es le meilleur sans le savoir. Là où le Seigneur t'a placé, toi, dans ta famille, dans ton lieu de travail, là où tu as un ministère, c'est là où tu es la personne de choix du Seigneur, où tu es le meilleur. Bien des fois, nous ne nous en rendons pas compte. Mais notre objectif, ce n'est pas de nous comparer, mais c'est tout simplement de courir la course. Et même si nous étions le dernier à arriver, le tout, c'est de franchir cette ligne d'arrivée, d'être fidèle à Jésus comme il a été fidèle pour nous, comme il a souffert pour nous, que nous soyons fidèles jusqu'à notre dernier souffle, pour Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, dit Jésus en Apocalypse 2, le verset 10. Alors je vais vous poser la question, comment persévérer jusqu'au bout? Alors quatre éléments. Premièrement, le texte nous dit dans le premier verset du chapitre 12 que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Mais revenons au stade. Il y a le stade qui est rempli et qui voit les athlètes qui courent
et qui crient « Allez-y, allez-y !» Et ils connaissent le nom des coureurs. Ils vont crier « Allez, Olivier! Allez, Marie-Christelle! Allez, Johan! Allez !» Et il y a le stade qui crie. En football, on appelle le stade, ils sont le 12e homme. Et bien-aimés, nous avons autour de nous aussi cette grande nuée de témoins. Et tout d'abord, cette nuée de témoins, ce sont ceux qui nous ont précédés dans la foi. On voit dans le chapitre 11 qui précède, il y a tous ces, on les appelle les héros de la foi. Abraham, Sarah, Moïse, enfin, Esaïe, il y en a beaucoup qui sont mentionnés. Et ils avaient la foi en Dieu. Ils voyaient de loin la venue de Jésus-Christ. Et beaucoup d'entre eux ont tenu ferme malgré l'opposition, les souffrances. Moïse a dû fuir, il a souffert, il a été contesté. Esaïe, on dit qu'on l'a scié en deux à la fin de sa vie. Ils ont tenu ferme dans la foi. Et après eux, il y a eu les apôtres, la première génération des chrétiens. Et puis tous les chrétiens des siècles, tous ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ et qui ont tenu ferme dans la foi. Et dans notre pays, ici en Belgique, au XVIe siècle, plusieurs milliers de personnes ont découvert Jésus-Christ et son évangile. Certains ici ont été décapités, brûlés sur la grande place à peine un kilomètre d'ici à cause de Jésus. À cause de l'Évangile, ils ont tenu ferme, ils n'ont pas renié. Et nous avons une grande nuée de témoins de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et pour eux, la vie n'a pas été facile, mais ils ont été jusqu'au bout. Et en cela, ils sont des exemples pour nous. Et un jour, nous ferons aussi partie de ces témoins, je l'espère, tant que Jésus ne revient pas, que nous ferons partie de ces témoins du passé pour les générations à venir. Et puis, il y a les témoins de ceux qui nous voient, la nuée de témoins. Toi, mon frère, ma sœur, regarde autour de toi. Et tu vois déjà ici présente, voilà, une petite nuée de témoins qui, tout discrètement, dimanche après dimanche, réunion après réunion en semaine, dans tes activités, dans tes nouvelles, te suit et se réjouit de ta progression en Jésus-Christ. Tu as des témoins autour de toi. Et aujourd'hui, par les médias aussi, l'Église est connue. Jusque dans les pays que nous représentons, parce que vous communiquez dans vos échanges au Congo, au Rwanda, d'autres pays encore, et vous demandez aux chrétiens de prier pour l'Église ici à Bruxelles. Et nous avons des témoins au loin qui sont informés, qui prient pour nous, qui nous suivent. Et d'autre part, nous aussi, nous faisons partie de cette nuée de témoins pour nos frères et sœurs autour de nous, ceux pour qui nous prions, que nous aimons dans le Seigneur. Nous sommes témoins de leur progression dans la foi. Bien-aimés, nous avons une grande nuée de témoins autour de nous. Et cela ne peut que nous encourager. Cette nuée de témoins n'a jamais été aussi grande. Les chrétiens de l'histoire et ceux qui nous connaissent aujourd'hui sont bien plus nombreux que ces quelques 10 ou 20 000 personnes qui se trouvaient dans les grands stades romains. Premier sujet d'encouragement. Le deuxième, pour persévérer, c'est que l'apôtre dit « rejetez tout fardeau ». Alors nous avons souvent des fardeaux. Et imaginez-vous un athlète dans le stade qui court, s'il a un sac à dos rempli de gros cailloux, 10, 20 kilos de poids, est-ce que vous croyez qu'il aura facile à atteindre la ligne d'arrivée Peut-être qu'il va y arriver, mais il va pas faire un bon score et quelle souffrance! Non, un athlète, il faut qu'il se dégage de tout ce qui pèse pour être libre et pouvoir courir plus facilement. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous aussi. Que nous puissions être libérés de ce qui nous pèse aujourd'hui. Nos soucis, peut-être une blessure du passé. Voilà tout ce qui est fardeau. Et Pierre nous dit dans son épître, « Déchargez-vous de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Alors mon frère et ma sœur, quel est ton souci aujourd'hui? Alors si tu continues chargé de soucis, fardeaux, pour tes enfants qui ne sont pas encore au Seigneur ou qui ont des difficultés dans leur vie, vos soucis financiers, votre santé qui vous pèse, déchargez-vous de tous vos soucis car il prend soin de vous. Quelle promesse qui est donnée. Il prend soin de toi. Décharge-toi. Donne au Seigneur ce qui te pèse, ce fardeau que tu portes. Mon frère, ma sœur, avec quel fardeau es-tu entré ce matin? Qu'est-ce qui t'a hanté dans l'esprit pendant la semaine que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a pesé? Ici, viens le déposer. Ici, ce matin, ne sors pas avant d'avoir donné au Seigneur ce qui est ton fardeau. Et quand tu dis, « Ah, pasteur, j'ai fait ça beaucoup de fois, je n'arrive pas à me décharger. » Alors là, ma réponse est de dire, « Mon frère, ma sœur, je comprends, tu n'es pas le seul. Demande à Jésus de te libérer de ton fardeau. Ce que tu ne peux pas faire, il le fera. Il viendra à ton secours. Dis, « Seigneur, je n'arrive pas à me libérer de mes soucis, de mes fardeaux, de toutes mes inquiétudes pour demain. » Oh, j'entends parler de chrétiens qui pensent qu'ils n'auront pas assez d'argent pour vivre d'ici quelques jours et avec tous les bruits de guerre qui ont peur de l'avenir. Mon frère, ma sœur, donne tous ces fardeaux au Seigneur. Et si tu n'arrives pas à t'en libérer, demande au Seigneur de couper ces cordes et enlever de ton dos ce poids que tu portes. Et puis, troisième élément, l'apôtre dit aussi de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Tout d'abord, j'aime bien qu'il s'implique lui-même, qui nous enveloppe. Donc, ça lui concerne lui-même aussi. Il ne dit pas, moi, je suis plus haut que vous, déjà plus dans un stade bien plus avancé. Il se met au même niveau. Il n'y a pas de chrétien de première et seconde classe. Nous sommes tous enfants de Dieu qui vivent de la grâce que Jésus a acquise à la fois. À la fois nous sommes saints, à la fois le péché nous piège et nous fait chuter par moments. Mais qui me relève dans mes chutes? C'est Jésus-Christ. C'est la première ligne d'un vieux cantique. Qui me relève de mes chutes? C'est Jésus-Christ. Ah, j'aime bien. Et ça, c'est ce que l'apôtre dit ici aux chrétiens. Vraiment, ton péché, tes péchés, apporte-les à Jésus-Christ. Et souvent, nous pensons à tout ce qui est d'ordre sexuel. Et le problème un peu, c'est que nous nous focalisons trop sur un seul point. J'aime regarder des vidéos d'accidents d'avion. Je regardais cette semaine un vol de China Airlines, oh, ça date déjà d'il y a des années, un avion 747 qui a fait une chute de plus de 9000 mètres. Vraiment, c'était terrible. Il y avait un problème de moteur qui ne fonctionnait plus et les pilotes avaient tout l'attention sur ce moteur. Ils cherchaient de résoudre le problème du moteur, mais ils oubliaient qu'il y a un tas d'autres paramètres qu'il faut suivre en même temps. Voilà. Et dans notre vie chrétienne, nous ne devons pas seulement voir un péché, mais tout ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous parle par exemple de notre paresse. Et qui n'est pas un peu paresseux entre nous?
Là. Vous avez compris. Voilà. Qui n'a pas quelque part un peu d'orgueil? Hein? Moi. Qui n'est pas un peu gourmand? Voilà. Qui n'est pas un peu attaché à son argent? Voilà. Est-ce que je n'ai pas quelquefois l'attitude de critiquer d'autres, de médire sur d'autres chrétiens, au lieu de prier pour eux et les bénir? Oh, la liste est longue. Que le Seigneur nous éclaire pour que nous ressemblions toujours plus à Jésus et que nous abandonnions nos péchés. Quel est mon péché que je vais confesser aujourd'hui? Qu'est-ce que je demande au Seigneur? Seigneur, pardonne-moi. Voilà, je... Vraiment que le Seigneur te mette ne fût-ce qu'un point à l'esprit. Voilà, que tu vas dire, voilà, je veux rejeter ce temps gâché que je peux employer pour autre chose. Il y a quelquefois des bonnes choses qui prennent trop d'extension et qui nous empêchent à faire ce que Dieu demande de nous. Voilà, et puis le quatrième élément, c'est que pour avancer, c'est de toujours garder les yeux fixés sur Jésus. Et c'est ce dernier point que je veux développer un peu plus. Parce que cet épître aux Hébreux est extraordinaire. Dès le début et jusqu'à la fin, cet épître met tout l'accent sur Jésus. On voit dans l'introduction que Jésus est l'expression de la gloire de Dieu. L'expression de la gloire de Dieu, Ésaïe enseigne clairement que Dieu ne partage pas sa gloire avec d'autres. Et là, on voit que la divinité de Jésus est très clairement affirmée dès le début. Jadis, les théologiens disaient que la divinité de Jésus, c'est un développement dans le temps. La résurrection, c'est un développement de la première, deuxième, troisième génération de chrétiens. Aujourd'hui, eh bien, avec un grand théologien qui s'appelle Richard Bauckham, britannique, professeur, ancien professeur de Cambridge, il dit « Toute la pertinence de Jésus-Christ » est présent dès le premier instant. Et on voit que Jésus est adoré déjà quand il est vivant, sur la montagne. Certains avaient des doutes. Rendre hommage à quelqu'un, on n'aura jamais eu des doutes quand on doit rendre hommage. C'est être respectueux, c'est la politesse. Personne ne doute de ce que la politesse soit convenable. Si certains avaient des doutes, c'est que ce verbe veut aussi dire « adorer ». Et là, il y avait raison d'avoir des doutes. On voit cette pertinence de l'adoration de Jésus dès avant son ascension. Et on la voit dans cette épître aux Hébreux dès le début, qu'il est le créateur de toutes choses. Et qu'il faut que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors c'est très fort parce qu'il y a une citation d'un texte de l'Ancien Testament, c'est le psaume 97, verset 7, où il s'agit dans un cadre de polythéisme que toutes les divinités, soi-disant divinités, doivent adorer Yahweh Dieu. Alors, là où l'Ancien Testament met Yahweh Dieu au centre dans un contexte d'adoration, on reprend le texte ici et à la place de Yahweh, on met Jésus. Il faut que tous les anges de Dieu l'adorent. L'adoration est la divinité de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, dès le début de l'Église, dès le début du premier siècle, on voit que cette gloire du Fils de Dieu est mise en évidence. Et Paul, ou quel que soit l'auteur, dès le début de cette épître, il met la gloire de Jésus en évidence, qu'il est digne d'adoration. Puis, Jésus, il est l'auteur de la foi. Verset 2, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de la foi. Mon frère, ma sœur, un jour, tu t'es converti à Jésus. Alléluia.
Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et tu chantes avec conviction « Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ ». Vous connaissez?
Oui.
Et là, c'est un côté de la médaille. C'est ton vécu. C'est ce qu'on appelle aussi la responsabilité humaine. Mais ta foi, est-ce qu'elle trouve vraiment son fondement fondamental dans ta décision de suivre Jésus-Christ? Où se trouve-t-il ailleurs? Il dit ici que c'est Jésus qui est l'auteur de la foi. Et déjà de son vivant, Jésus a dit que personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Est-ce que tu connais Dieu comme ton Père, ton Papa céleste? Ah oui, je pense bien. Alors pourquoi tu le connais comme ton Père céleste? C'est parce que le Fils a voulu te le révéler. Tu t'es converti. C'est le regard humain, mais derrière cela, il y a l'œuvre de Dieu, qui était déjà bien à l'œuvre avant ta conversion, qui a mis bien de choses en place. Quand Saul se convertit, c'est le Seigneur qui l'appelle d'abord. Paul, non, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et comment Paul savait-il qu'il c'était le Seigneur? Déjà dans sa réponse, il donne la réponse qu'il se doute bien de qui il s'agit et il l'appelle Seigneur. Étonnant, parce qu'il était en train de le persécuter et n'en voulait pas de lui. Et on voit là, avant sa conversion, Dieu l'a appelé. Et si nous sommes devenus chrétiens, et si nous avons fait cette démarche de foi, c'est que le Seigneur a œuvré dans notre cœur. C'est lui qui nous a cherchés, c'est lui qui a conduit les gens sur notre chemin, qui a permis de faire nos réflexions. Et c'est donc lui le vrai fondement de notre foi. Bien-aimé, quand notre accent est sur Jésus-Christ, alors notre foi ne dépend pas tant de nous-mêmes que de Jésus-Christ, qui en est le fondateur à son commencement et qui continue son œuvre en nous jusqu'au dernier jour. La foi, notre marche de la foi, notre marche chrétienne, c'est l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Ta foi, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est que ce que Jésus fait en toi. Et là, je dis Alléluia, Seigneur. Vraiment, ma foi, ma vie, mon avenir, eh bien, j'ai mon rôle à jouer, mais fondamentalement, c'est toi qui tient ma vie entre tes mains. Fondamentalement, c'est toi qui m'as fermé. Et le texte nous dit qu'il mène à sa perfection. Et la perfection a deux éléments. Je pense aux différents ministères dans l'Église, Éphésiens 4, verset 13, pasteurs, apôtres et d'autres qui sont donnés pour le perfectionnement des saints. Donc pour leur formation, pour que chacun trouve sa place, pour que chacun découvre ses dons. Et aux dons correspondent aussi un lieu de service. Choriste, moniteur d'école de dimanche, enseignant, administration, nettoyage, tant de dons différents qui permettent à l'Église de fonctionner. Et nous avons tous reçu des dons. Et nous avons tous un ministère à accomplir. Et le Seigneur nous conduit à devenir ces chrétiens matures qui trouvent leur place que le Seigneur veut pour que nous répondions à son appel. Le Seigneur est toujours à l'œuvre. Lui qui a commencé son œuvre en nous est en train de continuer avec nous aujourd'hui. Et puis la deuxième dimension du perfectionnement, ça c'est la ligne d'arrivée. Et quand on va voir dans le grec, qui l'amène à sa perfection, et on emploie là le mot « finisher », donc celui qui va atteindre la ligne d'arrivée. C'est comme un grand marathon ou triathlon, eh bien, il y a beaucoup qui participent, non pour gagner, mais tout simplement pour faire toute la course et même s'ils sont le dernier, ils seront heureux comme tout d'avoir réussi l'exploit, d'avoir accompli cette épreuve immense. Et le Seigneur veut que nous allions jusqu'au bout. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ en nous aussi, que nous tenions ferme à travers des jours de joie et des jours de peine, jusqu'au jour où il nous appellera à entrer dans son royaume, soit qu'il nous prenne lors quand il vient, soit que nous nous endormions, mais que nous soyons fidèles à Jésus jusqu'à notre dernière respiration. Bien-aimés, quoi qu'il soit dedans, notre chemin n'est pas toujours facile. Dieu nous bénit, il est fidèle, il a commencé son œuvre en toi et l'amènera beaucoup plus loin. Ceux qui sont matures disent, je lis Philippiens 1, verset 6, l'apôtre Paul ici, voilà, c'est... qui est l'auteur, peu importe, mais on voit que l'écriture se recoupe. Alors, notre route est encore longue, et Paul a dit ailleurs, progressez encore. Nous aussi courons avec persévérance. Nous avons une grande nuée de témoins. Nous pouvons déposer les fardeaux ou demander à Jésus de nous en libérer. Puisque nous connaissons le message de la grâce, de la croix où Jésus a donné son sang pour nous, nous savons avec confiance, quand nous demandons pardon, quand nous nous repentons, qu'il le fait et qu'il nous restaure. Et en toute chose, regardons à Jésus. Ne regardons pas trop, pasteur. Ne regardons pas trop à notre Église, ne regardons pas trop aux activités, aux institutions, aux finances, avant tout. Oui, tout cela est important, mais avant tout, regardons à Jésus. Ne regardons pas trop aux dangers, aux menaces, comme les apôtres dans la barque avec la tempête. Regardons à Jésus. Cette épître a commencé avec l'adoration de Jésus. Il faut que tous les anges de Dieu l'adorent. Et termine aussi dans son dernier chapitre, le verset 21, il est écrit, celui par Jésus-Christ à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus est adoré. Regardons à Jésus. Louons le Seigneur, bénissons son nom et nous verrons sa gloire. Amen. Oui Seigneur, nous te confions ces paroles pour qu'en toute situation nous puissions te regarder. Rappelle-nous Seigneur que tu es à l'œuvre, que tu n'abandonnes pas l'œuvre que tu as commencée. Tu nous amènes plus loin Seigneur. Et fais de nous vraiment ces disciples qui sont des piliers dans ton Église, chacun à sa place, chacun où tu l'as appelé, que nous trouvions notre place où nous sommes l'homme ou la femme de qui tu veux te servir. Et que dans nos vies, d'autres voient ta présence, Seigneur Jésus. Que dans notre vie, ton nom soit béni. Que d'autres te voient bien plus que nous-mêmes, Seigneur Jésus. Nous te confions notre route qui est devant et accompagne-nous jusqu'au bout d'être debout devant toi. Amen. Alléluia.